Vous êtes bien à la chronique des apatrides anonymes en ce lundi 3 avril à l'émission En profondeur. C'est Mathieu avec vous pour les prochaines minutes. Donc aujourd'hui, on va parler surtout de petites nouvelles qui se sont passées en Europe et ailleurs dans le monde. On a beaucoup parlé dans nos dernières chroniques, dans les dernières semaines, à la chronique des apatrides anonymes, de ce qui se passait aux États-Unis, la frontière, les histoires de Trump, les déportations, les décrets, tout ça. Je vais en parler un petit peu brièvement au début, mais ensuite j'aimerais bien qu'on parle d'autres choses pour parce qu'il se passe d'autres choses dans le monde que ce qui se passe dans le royaume de la tromperie. Donc, pour commencer, ben rapidement justement là-dessus, au Canada, le ministre canadien de l'immigration, Monsieur Ahmed Hussein, s'est fait interpeller pour savoir s'il y aurait plus d'argent qui serait donné au ministère de l'immigration et à la commission de l'immigration du statut de réfugié pour justement faire face à cet afflux supposé ou véridique à vérifier de plus de réfugiés, de migrants provenant des États-Unis. Il a répondu avec ses fonctionnaires, ses sous-ministres, que pour l'instant, il n'y avait pas vraiment de somme de prévu. D'ailleurs, dans le dernier budget, il y a deux semaines, il n'y en a pas eu. Parce que, bon, il n'est pas trop sûr que les décrets de Trump et ce qui se passe aux États-Unis vont vraiment influencer l'arrivée au Canada de migrants. Quel impact ça aurait sur le pays? Donc, pour l'instant, il n'y aura pas de nouveaux fonds. La commission, elle, demande qu'il y ait des nouveaux fonds parce que depuis quelques mois, elle a noté, et depuis, disons, un an, elle a noté qu'il y avait une augmentation du nombre de demandeurs d'asile et que ça pèse sur leurs ressources. Mais pour lui, il n'y a pas de problème. Peut-être dire que la commission avait reçu récemment 4,5 millions de dollars de plus pour gérer une augmentation qu'elle dit inattendue. Il faut quand même pas rire quand on le dit, mais des demandes de citoyens mexicains, la suite évidemment d'une décision du fédéral d'enlever le visa pour les Mexicains dont on vous a beaucoup parlé. Donc en décembre dernier, ça a été enlevé. Donc évidemment, il y a eu beaucoup plus de demandeurs de statut venant du Mexique. Donc il y a eu de l'argent pour ça à ce moment-là. Au niveau des chiffres, le nombre de demandes d'asile traitées au Canada en janvier et février, on parle de plus de 5 000. C'est une légère augmentation. Nombre de demandeurs d'asile appréhendés par la GRC, on a beaucoup entendu parler dans les médias en janvier et février au Canada, on parle de 1130, dont 677 au Québec. Ça aussi, c'est une légère augmentation, une augmentation quand même importante par rapport à l'année passée, par rapport au même mois de l'année passée. Donc, voilà un peu le topo au Canada, mais j'imagine que ça va revenir dans l'actualité parce que c'est sûr qu'il va y avoir encore beaucoup de traitements médiatiques, la question des migrants provenant des États-Unis. Puis on verra si le ministre va finalement réagir. Sinon, ben vous dire, ailleurs dans le monde, en Belgique, il y a le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Théo Frenken, qui a contesté devant la Cour européenne de justice une décision de la justice de son pays qui le contraignait à donner suite à une demande de visa d'une famille syrienne qui demandait un visa d'urgence pour des raisons humanitaires et de risque, évidemment. Et donc, sa propre justice lui avait dit de donner le visa à cette famille. Et il y avait d'autres familles aussi qui avaient fait des demandes dans ce sens-là. Mais la Cour européenne de justice a décidé que non, ça serait un précédent dangereux et que la Belgique perdrait le contrôle de ses frontières, rien de moins. Donc, dans son arrêt, la Cour européenne de justice a dit qu'aucun acte a été adopté par l'Union concernant la délivrance par les États membres de visas ou de titres de séjour de longue durée à des ressortissants de pays tiers pour des raisons humanitaires. Donc, ils ne veulent pas obliger les pays membres de l'Union européenne à avoir cette obligation. Ça porterait atteinte à l'économie générale du système institué par l'Union européenne pour déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Donc là, je vous ai des extraits du jugement de la Cour européenne de justice, mais c'est quand même un peu particulier parce que finalement, dans son pays, il avait perdu, une famille avait droit à un visa et la Cour européenne de justice dit non, vous n'êtes pas obligé de leur donner un visa. C'est un peu particulier, je pense, c'est un précédent dangereux. C'est ça qui est un précédent dangereux à ma compréhension. Donc, 13 autres États européens et la Commission européenne étaient contre cette décision-là de la justice belge et avaient appuyé la Commission européenne de justice là-dedans. Donc, ça, c'est une nouvelle en Belgique, en Europe. En Allemagne, ça fait quelques semaines déjà, la Cour constitutionnelle du pays a rejeté une demande d'interdiction d'un parti d'extrême droite, le NPD, mais c'est pas le même qu'au Canada. Et la raison officielle, c'est que ce parti a une faible audience auprès de l'électorat, laissant penser que l'action du parti ne peut être couronnée de succès. Donc ça, c'est l'argument pour dire qu'on n'interdit pas un parti d'extrême droite qui est néo-nazi. Cette demande d'interdiction avait été présentée par la Chambre haute du Parlement allemand. Et la Cour a décidé de rejeter cette demande-là. Ça avait déjà été rejeté aussi en 2003 dans le cas du NPD, ce même parti d'extrême droite allemand. Je vous cite, les juges ont considéré que même s'il a une parenté avec le national-socialisme et que le NPD vise un État autoritaire fondé sur une communauté populaire définie ethniquement, le mouvement n'a pas de réelle portée. Mais dans son programme, on peut lire que la survie et le maintien du peuple allemand dans son espace vital héréditaire d'Europe centrale est fondamental. Cette demande-là d'interdiction avait été présentée il y a quelques temps, donc en 2013, après la découverte d'une série de meurtres racistes commis par 3 militants néo-nazis reliés au NPD. C'est un parti qui a été fondé en 1964, qui compte à peu près 6000 membres et qui a un seul siège pour l'instant au Parlement européen. Il y en a déjà eu dans des parlements régionaux. Mais le vrai problème en Allemagne actuellement, c'est l'AfD, Alternative for Deutschland, qui est un parti plus moins néo-nazi, mais axé plus sur l'anti-islam et anti-immigrant, qui est crédité de 10 à 15% ces temps-ci pour les intentions de vote. Il y a des élections législatives en 2017. Donc, c'est plus ce parti-là qui est en avant, mais il y en a qui voyaient dans le fait d'interdire le NPD que ça aurait pu être une première étape vers un contrôle plus serré du parti, donc de l'Alternative for Deutschland, le AfD. Donc voilà pour l'Allemagne. Paris, petite nouvelle sympathique qui date du mois de février. Tailleurs de pierre, donc une dizaine de tailleurs de pierre ont déplacé des blocs mis en place par la mairie de Paris. Sous un pont situé à côté de la Porte de la Chapelle, dans le nord de Paris. Donc, un lieu où des réfugiés avaient l'habitude de passer la nuit aux abords d'un centre humanitaire pour les migrants qui a été ouvert dans la foulée de la vague de migration dans les dernières années en Europe. Les tailleurs de pierre sont venus un peu partout en France et ont décidé de venir tasser ces cailloux-là qui empêchaient finalement les réfugiés de mettre des tentes ou de se coucher la nuit. Et leur idée à eux, selon leur porte-parole, c'était de graver les pierres pour donner du sens à ce tas de cailloux, en inscrivant par exemple des noms de personnes décédées en mer ou des citations, car pour eux, la pierre, c'est un matériau noble, et ils ne veulent pas que ce symbole soit celui de la lâcheté des autorités face à la détresse des migrants. Donc, la mairie de Paris avait mis en avant l'imminence des travaux de voirie pour justifier l'installation, mais on sait très bien que c'était pas le cas. Bon, ils ont fait ça pendant 2 heures, ils ont tassé plusieurs grosses pierres, mais les forces de l'ordre, évidemment, sont arrivées pour les arrêter leur action. Mais on doit noter que plus de 5000 personnes sont prises en charge dans le centre humanitaire juste à côté. Donc, 5000 qui ont été prises en charge depuis 3 mois, essentiellement afghans et soudanais, et qu'ils débordent. Donc, 400 d'entre eux et d'entre elles dorment autour du centre, le long des grilles, sur le terre-plein du boulevard, en dessous du pont. Donc, voilà une autre belle action de la mairie de Paris qui a essayé d'être contrée par des gens dont on s'attendait pas à l'arrivée, c'est-à-dire des tailleurs de pierre un peu partout en France. Mais une belle action et ils promettent de récidiver. Toujours en France, dans les dernières semaines, une nouvelle assez triste. Le 6 janvier, ça fait quand même quelques temps, mais ça... C'est une nouvelle comme d'autres qui est passée un peu sous silence. À Châlons, en Champagne, en France, donc dans un foyer d'accueil de mineurs isolés étrangers, il y a un jeune de 16 ans qui s'est suicidé. C'est une histoire qui est pas unique, qui est pas particulière, mais qui révèle un peu la détresse et la rigueur et la violence des politiques de migration en France et en Europe actuellement. C'est un texte issu du bloc de soutien aux mineurs étrangers isolés, appuyé par le réseau Éducation sans frontières. Donc, ce jeune s'est jeté du 8e étage pour échapper à la police du foyer d'accueil. Il était arrivé du Mali par la Libye et l'Italie en 2015 et passé en France en 2016. Et on lui avait dit la veille que sa minorité n'était pas reconnue comme étant en danger, qu'il ne serait pas pris en charge par l'État. Donc, après cette nouvelle, quand la police est venue le chercher, il s'est juste lancé en bas du 8e étage. C'est triste comme ça. Un extrait peut-être du communiqué du réseau Éducation sans frontières de Châlons-en-Champagne, parce qu'il y a eu des manifs, évidemment, pour dénoncer cette histoire. Donc, ce drame met en lumière la tragédie que vivent ces jeunes étrangers livrés au tamis de l'évaluation de la pression institutionnelle, maltraités, suspectés, dénigrés, parce que la France ne veut pas les accueillir. L'État se dédouane de ses responsabilités. Les conseils départementaux trient et rejettent par souci d'économie budgétaire. Les jeunes se retrouvent à la rue, errent de ville en ville, sans avenir, et ils en meurent. Et même quand ils sont pris en charge, l'accompagnement est insuffisant, la suspicion continue et l'angoisse du lendemain n'est jamais levée tout à fait. L'État et le conseil départemental sont coupables de non-assistance à jeunesse en danger. Et on parle de mineurs ici, évidemment. Donc voilà pour cette triste histoire. Dernier sujet dont je voulais vous parler, ça se passe en Algérie. On n'en parle pas souvent. Il s'est passé au mois de décembre et janvier une série de rafles de migrants d'origine africaine, mais des gens qui sont d'Afrique subsaharienne, mais qui sont installés souvent depuis longtemps en Algérie. On parle de 1500 personnes qui ont été arrêtées en quelques jours, regroupées dans un camp en banlieue de la ville, en banlieue d'Alger, et amenées à Tamaracet, au sud du pays pour être expulsés vers leur pays d'origine, vers les pays voisins. Puis ce qui est un peu bizarre, ce que les gens comprennent pas, c'est que depuis 2012, les migrants sont assez tolérés en Algérie. D'ailleurs, ils servent bien parce qu'ils travaillent, ils font des emplois que les gens veulent pas faire et ils sont assez bien exploités, mais ils servent évidemment comme main-d'œuvre. Donc, travaille sur des chantiers de construction public ou privé, dans des restaurants, des cafés, sur les routes, un petit peu comme dans d'autres pays. Et selon la loi qui, officiellement, mais qui n'était pas appliquée, toute personne en situation régulière en Algérie est passée de 2 mois de prison ferme, d'une amende et est reconduite à la frontière ensuite. Mais dans les faits, de 100 à 150 000 migrants d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale sont présents, travaillent et vivent en Algérie. Il arrive que certains soient arrêtés, condamnés pour séjour. Ils passent alors 2 mois en prison et sont libérés avec une obligation de quitter le territoire. Mais dans les faits, c'est pas appliqué, puis ils recommencent à travailler et ça continue comme ça. En fait, c'est un peu ça le contexte qui surprend pourquoi il y a eu ces rafles-là, donc de plusieurs milliers de personnes. C'est que depuis 2014, seuls des Nigériens avaient été arrêtés de façon collective et reconduits à l'extérieur du pays. Bon, il disait que c'était des gens organisés en filière de mendicité. Donc, ça avait été suite à un accord entre le Nigeria et l'Algérie. 17 000 personnes avaient été ramenées à la frontière dans ce cadre-là. Au mois de septembre, drôle d'annonce, le ministre intérieur annonce l'expulsion de 1500 Sénégalais et 400 Guinéens. Une annonce étrange puisque les ambassades des deux pays savaient même pas qu'il y avait autant de monde de leur pays en Algérie. Donc, c'était un peu surprenant. Au mois d'août dernier, donc 2016, 400 Maliens avaient été rapatriés au Mali après quelques violences, des violences faites souvent par des résidents ou la police. Donc, ça se passait dans la ville de Tamanrasset. Mais les autorités algériennes avaient affirmé que c'était sur la base volontaire que les 400 Maliens avaient été rapatriés. Difficile à dire. Donc, plusieurs épisodes de violence, 4 fois donc depuis quelques mois, entre les habitants et les migrants, les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne. Et là, ben c'est sûr que ça a frappé un peu l'imaginaire en Algérie parce que on a parlé, voyez, un syndicat algérien a dit que c'était la plus grande chasse à l'homme noir depuis l'indépendance de l'Algérie dans les années fin des années 50, début 60. Donc ça a été déclenché en décembre. Pendant quelques jours, tous les quartiers où vivent les migrants ont été encerclés par la police. Les rafles n'épargnaient ni les femmes ni les enfants. Les gens ont été arrêtés à domicile, sur les lieux de travail ou entre les deux. Et en même temps, ben pendant qu'ils étaient arrêtés, les gens autour volaient tout ce qu'il y avait dans les appartements ou dans les lieux où ces gens-là habitaient. Donc, c'est assez tragique. Juste avant, le 30 septembre, Amnesty avait tiré la sonnette d'alarme sur la situation des migrants donc subsahariens en Algérie. Ils viennent surtout de Nigeria, Niger, Libéria, Cameroun, Mali et Guinée. La plupart ont afflué en Algérie parce qu'ils voulaient se rendre en Europe en passant par le Maroc ou la Libye, mais faute de moyens, à cause de la répression, ils se sont trouvés finalement en Algérie et ont décidé de vivre une vie clandestine, mais où c'était quand même toléré, comme je vous disais tantôt, mais contraint de travailler dans l'illégalité pour des employeurs souvent sans scrupules et loger à prix à loyer beaucoup trop élevé. Donc, c'est ça la situation. Des migrants marginalisés par les autorités, ostracisés par la population, victimes de violences dans différentes villes. Et là, on décide de faire des rafles, d'en expulser des milliers. Et bon, les analystes qui disent, c'est que l'idée, c'est de faire comprendre à ces gens-là que l'Algérie n'est plus un pays de transit ou un pays où s'arrêter pour venir travailler clandestinement. Beaucoup d'autres disent que le président Bouteflika en est à ses dernières semaines de vie. Donc, quand il va mourir, ça va être un peu le conflit entre les différentes factions politiques et ça risque de brasser dans le pays. Les gens veulent pas avoir des gens qui pourraient être enrôlés pour appuyer un côté ou l'autre. Drôle d'analyse. J'ai lu ça dans quelques médias. Donc, la situation, c'est que j'ai essayé de voir si depuis décembre, janvier, ça s'était continué. Ça a l'air que ça s'est calmé en Algérie au niveau des expulsions, des arrestations et expulsions. Mais c'est un dossier à suivre parce que on parle des pays d'Europe, on parle des États-Unis, du Canada, mais c'est bien de voir ce qui se passe aussi à l'intérieur des pays dits du Sud, des pays même en Afrique même. Donc, voilà. Donc, c'était mon dernier sujet, la situation des migrants subsahariens en Algérie. Donc, c'était la chronique des apatrides anonymes. C'est Mathieu qui vous dit à la prochaine. La semaine prochaine, Simon sera là. Et je vous rappelle, vous êtes toujours sur les ondes de CKUT à l'émission En profondeur.